Il est 11h30, Info Mag avec Jean-François Baudin.
Le dock Biscochoc à Ducos ravagé par les flammes, la structure métallique s'est en partie effondrée cette nuit. Les élus du conseil municipal de Dumbéa ont voté hier le budget supplémentaire de la collectivité. Il a bénéficié d'une aide exceptionnelle de l'État. À l'étranger, Donald Trump veut laisser sa chance à la négociation. Il donne 15 jours à l'Iran pour reprendre les discussions sur le nucléaire. En métropole, les difficultés du groupe Pernod Ricard. Il annonce un plan de restructuration et prévoit de tailler dans ses effectifs. Et puis, il ne reste plus qu'un seul bateau en mer. La Groupama Race touche à sa fin. Une 8e édition saluée par les skippers au fil de leurs arrivées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité sera cette semaine le général Mathéos.
Oui, c'est le général Mathéos qui est fini l'invité de Transparence, l'occasion d'un premier bilan pour le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Il va prochainement quitter ses fonctions qu'il occupe depuis juillet 2022 et nous l'interrogerons sur son action, sur les temps forts de ce séjour qui, on le sait, a été marqué par les violences insurrectionnelles de mai 2024. Nous, on se retrouve donc d'ici une demi-heure en compagnie du général Mathéos, juste après votre journal.
Et à 16h45, ce sera le rendez-vous du Club Politique Radio Rythme Bleu.
Et nous reviendrons dans ce Club Politique sur la conférence de presse de Christian Théin après sa remise en liberté, en nous interrogeant notamment sur la question de son éventuelle participation aux discussions sur l'avenir institutionnel. Nous essaierons également de décrypter la dernière prise de position de l'UNI, qui affirme que le président de la République porte le projet de Manuel Valls. Et puis nous évoquerons les relations entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook, alors que le gouvernement néo-zélandais a annoncé la suspension de son aide aux îles Cook, qui viennent de nouer un pacte stratégique avec la Chine. Un Club Politique qui débute cet après-midi à 16h45.
Les pompiers sont toujours mobilisés à Ducos. Ils doivent traiter les derniers points chauds sur le dock de Biscochoc qui a été entièrement détruit, Nicolas Legrand.
Oui, les sapeurs-pompiers sont arrivés hier à 15h30 et ont lutté contre les flammes toute la nuit. Il s'agit d'un incendie de dock compliqué en raison de la structure du bâtiment, mais aussi de la présence d'huile végétale stockée à l'intérieur. Écoutez le capitaine Anthony Guépi, chef de colonne.
Sur ce type d'intervention, c'est toujours très compliqué et très lent. Nous sommes toujours sur un incendie qui dégage beaucoup de fumée. On a encore beaucoup de points chauds qui sont liés à l'effondrement d'une partie de l'entreprise qui était une structure métallique, sur des machines, des outils qui étaient en combustion et sur lesquels nous n'avons pas d'accès. Pour la protection du personnel, on ne fait rentrer personne à l'intérieur. Alors, on ne peut pas aller chercher l'incendie. Donc c'est des extinctions qui se font par l'extérieur principalement et qui du coup, une fois que le bâtiment s'affaisse ou s'effondre, vont prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que les tôles et les poutres et autres soient dégagées et qu'on puisse réellement atteindre les derniers points chauds. Depuis hier, 15h, nous avons plusieurs lances qui sont disposées tout autour du bâtiment pour limiter les risques de propagation, ce que nous avons réussi à faire. Et vers 7h du matin, nous avons allégé le dispositif car nous avons éteint la majorité des foyers et nous continuons à mettre en place des lances tout au long de la journée afin de refroidir l'ensemble des 3000 m² en vue d'éteindre totalement l'incendie dans les heures, voire les jours qui suivent.
Et les pompiers restent donc mobilisés pour écarter le risque de propagation car le bâtiment, lui, est entièrement détruit.
Sur les 3000 m² qui restaient, parce que l'entreprise avait déjà été impactée l'année dernière, ils avaient enlevé une partie du matériel, il restait encore du matériel, il restait encore des produits à l'intérieur. Mais aujourd'hui, sur les deux docks de la superficie totale, il ne reste plus rien effectivement à sauver.
Le bâtiment qui avait été touché par les incendies de 2024 avait été démoli et il ne restait plus que ces 3000 m² encore debout. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire, mais il s'agirait vraisemblablement d'un incendie criminel. D'après nos informations, une mise à feu à proximité des huiles végétales qui étaient stockées dans les anciennes chambres froides est fortement probable.
Rappelons que la vente d'alcool est interdite sur l'ensemble du territoire depuis ce matin et jusqu'à dimanche inclus. Le Haut Commissariat a pris un arrêté indiquant que compte tenu du contexte politique actuel et des troubles à l'ordre public des dernières semaines, ainsi qu'à l'approche de la fête de la musique qui aura lieu samedi. La vente d'alcool est interdite jusqu'à dimanche inclus. En revanche, elle reste autorisée au sein des bars et restaurants et boîtes de nuit pour une consommation immédiate. Souveraineté avec la France, fédéralisme asymétrique ou nouveau projet, ce sont des notions avec lesquelles on jongle tous les jours quand on parle des discussions sur l'avenir institutionnel, à tel point que les Calédoniens, Elisabeth, ont un peu de mal à s'y retrouver.
Et ce matin, nous avons demandé à Gilles Brial, membre de la délégation Les Loyalistes, quelle était la réalité de ces termes, à commencer par le projet de souveraineté avec la France proposé par le ministre des Outre-mer. Il se traduit par un transfert des compétences régaliennes à la Calédonie et un transfert immédiat et obligatoire de ces compétences à la France. Il se traduit aussi par l'instauration d'une double nationalité et l'établissement à terme d'un statut international. Même si Manuel Valls n'a jamais qualifié son projet, ce sont les éléments constitutifs de l'indépendance association, affirme Gilles Brial, et il explique que cela ne donne aucune garantie pour l'avenir.
En fait, on essaie de nous faire croire comme il y aurait un pacte entre la Nouvelle-Calédonie indépendante finalement, et l'État français, donc un pacte entre deux États indépendants. Ce pacte engagerait. Mais on voit bien, c'est ce qui s'est passé avec les îles Cook cette semaine. Les îles Cook, c'est un État associé à la Nouvelle-Zélande, donc exactement la même définition que ce que propose Manuel Valls pour la Nouvelle-Calédonie. Et il y a un pacte entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook. Les îles Cook n'ont pas respecté ce pacte puisqu'ils ont décidé finalement d'aller faire des nouveaux deals avec la Chine sans demander l'avis de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est-à-dire contrairement à ce qui est décidé dans ce pacte, donc la Nouvelle-Zélande dit, ben, puisque vous ne le respectez pas, nous on arrête notre financement. Et Valls est celle de nous sécuriser son dispositif en disant, mais comme il y a un pacte entre la France et la Nouvelle-Calédonie et que dans ce pacte on dit qu'aucun des deux ne peut rompre ce pacte de manière unilatérale, on est assuré. Mais non, en fait, quand vous êtes un État indépendant, vous pouvez rompre n'importe quel pacte si vous avez l'envie de le faire.
De leur côté, les partisans de la France proposent un projet de fédéralisme, mais ils n'ont pas déposé de documents pour détailler cette proposition. Selon Gilles Brial, c'est volontaire parce que nous n'en sommes qu'au stade des négociations, mais il nous a précisé les grandes lignes de ce projet.
Aujourd'hui, chacune des trois provinces a exactement les mêmes compétences que les autres. Qu'elles veuillent ces compétences ou pas, qu'elles exercent ces compétences ou pas, les trois provinces ont les mêmes compétences. Nous, ce qu'on dit, c'est l'État ne doit plus transférer de compétences à la Nouvelle-Calédonie. On a été gavé de compétences, il y a des compétences qu'on n'arrive pas à exercer. On préférait à la rigueur les redéléguer, ces compétences-là, à l'État. Par contre, on transfère la compétence fiscale aux provinces. Pourquoi ? Parce que la logique, c'est de dire les provinces doivent être les collectivités d'attractivité. C'est elles qui doivent être le moteur de la relance économique et qu'elles doivent avoir tous les attributs, toutes les compétences qui permettent d'être attractives, c'est-à-dire d'attirer soit des investisseurs, soit des personnes qui veulent venir s'installer en Nouvelle-Calédonie pour redévelopper la Nouvelle-Calédonie. Donc on transfère de manière obligatoire la fiscalité aux provinces et après, chaque province choisit à la vitesse qu'elle le veut de prendre des compétences à la Nouvelle-Calédonie. Donc ils ne sont pas obligés de les prendre, ils peuvent prendre l'ensemble des compétences, mais ça leur permet d'évoluer à la vitesse des besoins des populations des provinces et des volontés politiques des exécutifs qui les dirigent.
Et c'est ce qui s'appelle le fédéralisme asymétrique, puisque chacune des provinces peut choisir à son rythme les compétences qu'elle souhaite exercer. Le président de la République, enfin, invite les parties prenantes calédoniennes à Paris et il veut trouver un projet nouveau. Par définition, déclare Gilles Brial, ce ne peut pas être le projet de Manuel Valls.
Ce qui est sûr, c'est que pour nous, la définition d'un projet nouveau, ben, ça veut dire que le projet d'avant, l'État associé, ne peut pas être ce projet nouveau. La façon dont sont en train de se passer les choses, avec une reprise en main du président de la République, encore une fois, accord de Matignon, accord de Nouméa, le président de la République était au-dessus de la mêlée, il ne participait pas aux négociations. Là, s'il rentre dans le jeu, c'est qu'il considère qu'aujourd'hui, on est sur un point de blocage et qu'une autre solution, un autre projet doit être apporté pour permettre aux choses d'évoluer. Mais dans ce qu'il dit, ce qui nous plaît, c'est qu'il y a une partie institutionnelle, mais il y a également une partie économique, sociale, santé, c'est-à-dire tous les éléments qui permettent finalement de relancer la Nouvelle-Calédonie. Plus que jamais, on est dépendant de l'État et finalement des financements de l'État pour permettre la reconstruction. Si finalement on a un accord qui est à la fois institutionnel et à la fois économique, social, santé et évidemment sur la partie nickel qui est une catastrophe aujourd'hui, bah c'est une réussite à la fin.
Et on en saura plus à partir du 2 juillet, c'est la date à laquelle le président de la République doit recevoir pour un sommet les parties prenantes calédoniennes. Une interview de Gilles Brial à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
En bref, on a appris cette nuit le décès du général Jacques Vidal, officier des troupes de marine. Il s'est éteint à l'âge de 88 ans, commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie en 1988. C'est lui qui a conduit l'opération Victor pour libérer les otages de la grotte d'Ouvéa le 5 mai 1988. Une cérémonie religieuse en son honneur sera célébrée le 26 juin à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines en métropole. C'est un compte rendu, c'est un compte administratif 2024 très tendu. Ce sont les mots du maire de Dumbéa, Yoann Lecourieux, lors du conseil municipal qui s'est tenu hier soir. Les élus ont examiné le bilan financier de l'année passée et ils ont voté le budget supplémentaire, Charlotte Coulson.
Pas de surprise concernant le bilan financier 2024 de la commune. Le résultat consolidé, qui inclut les budgets principaux et annexes, est en nette diminution par rapport à 2023. Il est égal à 52 millions. À noter notamment une baisse de 20% des recettes, soit près de 720 000 millions de francs. Les dépenses de fonctionnement ont quant à elles diminué de 361 millions, mais un niveau d'investissement maintenu à 1,2 milliard sur des opérations déjà engagées. Un signe de résilience de la municipalité, selon le maire de la commune, Johan Lecourieux.
Le compte administratif 2024 a été difficile à terminer, et car nous avons constaté des baisses de recettes de tous nos partenaires, notamment de la Nouvelle-Calédonie et de la province. Mais malgré tout, nous avons fait par une résilience des services municipaux, du personnel, des engagements, d'une organisation nouvelle et des choix sur les investissements, on a réussi à boucler l'année 2024. Oui, on a fait un très bon niveau d'investissement du fait de gros chantiers qui avaient été lancés en début d'année 2024 et qui ont eu l'occasion de reprendre en fin 2024, ce qui a permis surtout à la commune de soutenir le milieu économique malgré tout.
Après adoption à l'unanimité du compte administratif 2024, le Conseil s'est penché sur l'examen du budget supplémentaire 2025. La ville a pu dégager un autofinancement de 167 700 000, notamment grâce au soutien de l'État.
Le budget supplémentaire, vu le compte administratif très tendu 2024, c'est surtout les aides de l'État dans le cadre de la reconstruction. Les aides de l'État que nous avons perçues tardivement, mais nous avons perçues ces dernières semaines. Un soutien assez fort et présent de l'État, ce qui nous a permis donc de construire un budget supplémentaire et de pouvoir initier les reconstructions et surtout tout ce qui est relatif à la sécurité, tels que les points lumineux et l'achat de nouvelles caméras de vidéosurveillance.
Le budget principal 2025 de la commune, qui inclut le budget primitif et supplémentaire, s'élève donc à 4,84 milliards. Le budget supplémentaire a donc été adopté à la majorité. Le groupe Génération d'Imbéa a en effet voté contre le budget annexe du service de la collecte des déchets ménagers. Comme l'explique Cynthia Jean, élue d'opposition, le groupe souhaitait baisser les tarifs pour les Dimbéens.
Il y a une enveloppe de plus de 100 millions de francs à disposition dans le budget des déchets ménagers. Nous avons proposé d'utiliser cet argent pour baisser la redevance des ordures ménagères chaque mois pour les Dimbéens. L'exécutif de la mairie nous a indiqué avoir fait d'autres choix et souhaité conserver cette somme pour un futur quai d'apport volontaire qui pourtant est un projet qui traîne dans les cartons depuis maintenant trop longtemps. Un autre sujet nous a interpellés grâce aux 200 millions d'euros que donne l'État pour la reconstruction des bâtiments publics en Nouvelle-Calédonie. La commune a choisi de ne pas reconstruire par exemple le centre culturel, le studio 56, et c'est un sujet dommageable pour nous.
Le groupe Génération d'Imbéa, qui a également évoqué au cours de ce conseil municipal les nuisances et incivilités aux abords des plateaux sportifs de la commune. Et à noter qu'en début de séance de ce conseil municipal, une minute de silence a été marquée en hommage à Amastio Taoutouou, l'adjoint au maire qui s'est éteint le 17 juin dernier. Et puis le maire a remis la médaille de la commune de d'Imbéa au commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, le général Mathéos, et son adjoint, le colonel Bayarja. Une distinction pour remercier l'engagement du général cette dernière année, alors que son départ part du territoire approche.
Toujours dans l'actualité institutionnelle, notez qu'une séance publique de l'Assemblée de la province Nord est en cours avec plusieurs textes budgétaires à l'ordre du jour, notamment le projet de délibération relatif au compte administratif 2024. Les élus doivent également voter la décision modificative numéro 1 relative au budget supplémentaire. Plusieurs dossiers de subventions d'associations et organismes rattachés à la province Nord sont également à l'étude.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Avez-vous été choqué par les propos tenus en conférence de presse par Christian Théin ? Si cela vous a choqué, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier est 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que des événements comme la Groupama Race sont de nature à donner une image plus attractive de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 13% à ne pas partager cette opinion. La Groupama Race, on en parlera évidemment dans la page sport à la fin de ce journal, mais là, après la pause, ce sera l'actualité en métropole et dans le monde, dominée toujours par la guerre entre l'Iran et Israël.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pendant les vacances, Bureau Vallée pense à vous. Les rayons Beaux-Arts, loisirs créatifs et librairies sont à moins 20%. Rendez-vous dans votre magasin Bureau Vallée Magenta, ouvert en continu de 8h à 18h du lundi au samedi.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valable du 7 au 21 juin 2025.
La fête de la musique est de retour à Nouméa ce samedi 21 juin. À partir de 16h30, tous les styles seront à la fête sur les 4 scènes de la place des Cocotiers. Et rendez-vous également à la cathédrale Saint-Joseph pour y retrouver des chorales. La ville de Nouméa vous attend ce samedi 21 juin pour célébrer la musique. Programmation complète sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Chez Maison Thirier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moule, profitez du kilo de frites pour 100 francs de plus, soit le tout à 1090 francs seulement. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans vos 4 magasins à Pogoti, Magenta, Faubourg et Vata. Maison Thirier, goûtez, ça change du surgelé.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La guerre se poursuit entre l'Iran et Israël avec des bombardements des deux côtés. Un missile iranien a touché l'hôpital de Beersheva dans le sud d'Israël. La frappe a fait une quarantaine de blessés. De son côté, le gouvernement israélien affirme que des bombardements ont détruit la moitié au moins des rampes de tir de missiles iraniens. De son côté, Donald Trump a enfin tranché. On savait qu'il hésitait avant d'engager des opérations militaires américaines contre l'Iran. Le président américain a finalement décidé de laisser une chance à la négociation et donne un délai de 2 semaines au régime de Téhéran. Rémi Amalvi pour Europe 1.
Donald Trump vient de terminer sa 3e réunion en 3 jours dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison-Blanche, et il a donc décidé de donner un sursis de 15 jours aux Iraniens. La porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé la nouvelle lors d'une conférence de presse, Caroline Levitt, qui a ajouté qu'une correspondance s'était poursuivie ces derniers jours entre Washington et Téhéran et qu'il existait une possibilité substantielle de négociation avec l'Iran dans le futur proche. La Maison-Blanche estime également que l'Iran a la capacité d'assembler une bombe nucléaire en une quinzaine de jours. En laissant le temps aux discussions pendant 2 semaines, Donald Trump souhaite probablement jauger les Iraniens. S'ils assemblent leur bombe, le président américain pourrait alors décider de frapper leur site nucléaire souterrain. Et s'ils mettent leur programme en pause ou l'arrêtent, alors le milliardaire pourra se vanter d'avoir réussi à trouver une issue diplomatique au conflit. Une solution pacifique qu'un nombre croissant de ses soutiens réclame ces derniers jours.
Sur ce dossier, la France apparaît en retrait. Emmanuel Macron a présidé un conseil de défense et un conseil des ministres, mais pour l'instant, il se contente d'un appel à la désescalade, a expliqué la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas.
Le président de la République et le ministre des Affaires étrangères ont réaffirmé la position de la France, c'est-à-dire la volonté de désescalader les tensions au Moyen-Orient, et ont exprimé leur volonté que toutes les parties reprennent le chemin de la diplomatie.
La France qui se préoccupe en attendant de ses ressortissants qui vivent en Iran ou en Israël, et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a donné des consignes. Antoine Bienveau pour Europe 1.
En ce qui concerne l'Iran, d'abord Jean-Noël Barrot appelle les ressortissants français à quitter le pays par leurs propres moyens en promettant un accompagnement aux frontières turques et arméniennes.
Le passage est possible sans visa vers l'Arménie et la Turquie dont les frontières sont ouvertes. Des équipes sont déployées aux 2 frontières pour accueillir nos ressortissants. Ils seront ensuite invités à rejoindre les aéroports turcs ou arméniens pour regagner le territoire français.
Pour ceux qui ne pourraient pas atteindre la frontière, le Quai d'Orsay promet des convois spéciaux d'ici la fin de semaine pour les aider à quitter le pays. En Israël, la consigne est la même. Les Français sont appelés à rejoindre les frontières jordaniennes et égyptiennes par la route pour y être pris en charge. Une option que refuse toutefois Alan, jeune Français bloqué à Tel Aviv.
C'est quand même risqué, on ne connaît pas le pays, il suffit qu'il y ait quelque chose là-bas et qu'on se reste bloqué là-bas, c'est pas l'idéal. Moi, je préfère rester ici que d'aller dans un pays où je ne connais pas et où je ne sais pas comment je serai accueilli, etc.
Le ministre des Affaires étrangères prévient néanmoins que ce dispositif d'évacuation pourrait être amené à évoluer dans les prochains jours en cas d'éventuelle hausse des bombardements entre l'Iran et Israël.
L'actualité en métropole, ce sont aussi les difficultés du groupe Pernod Ricard. Il est touché par la crise et par la guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis. Résultat, il annonce un vaste plan de réorganisation. Les explications de Baptiste Morin.
Pernod Ricard veut couper dans ses 18 500 employés, dont 4 000 dans l'Hexagone. Nous connaissons en France Pernod Ricard pour son pastis. La bouteille d'un litre de Ricard est d'ailleurs le produit le plus acheté en grande surface en France. Oui, oui. Mais Pernod Ricard réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires à l'export. Et les marchés de 2 de ses produits phares se portent mal. Le cognac et le champagne, explique l'économiste Jean-Marie Cardebas.
La géopolitique internationale a fermé plusieurs marchés, le marché américain, le marché chinois aussi, beaucoup, avec notamment l'interdiction de vendre dans les duty-free, par exemple, ce qui est un gros canal de distribution. Donc ces difficultés géopolitiques, géoéconomiques, elles se retrouvent aujourd'hui au niveau social. C'est une suite, hélas, logique pour ce qui reste l'un des rares fleurons de, finalement, l'industrie française.
Les concurrents de Pernod Ricard souffrent également. LVMH a annoncé vouloir supprimer 10% des effectifs de sa filiale vin et spiritueux. Et puis le numéro 1 mondial, le britannique Diageo, qui produit notamment la vodka Smirnoff et la bière Guinness, veut réaliser 500 millions de dollars d'économies.
Il est 11h50, une dernière pause dans ce journal avant de voir l'actualité sportive et notamment la fin quasiment de la Groupama Race. Il ne reste qu'un seul bateau en mer.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Elles sont là, les Nike Air Force One viennent de débarquer chez Ozone Sport au prix de 12 500 francs. Oui, vous avez bien entendu, à seulement 12 500 francs. Retrouvez-nous au centre-ville de Nouméa. Ozone Sport, votre revendeur officiel Nike.
Ce sont les journées irrésistibles chez Jardiland Nouméa. Du 20 au 22 mai, profitez de moins 15% sur tout le magasin et jardiland.nc grâce à votre carte de fidélité. Animalerie, fleurs, déco, mobilier de jardin, barbecue et piscine, transformez des petits prix en grand plaisir.
Jardiland.
Cultivez votre bien-être.
Chers amis golfeurs, la dernière qualification pour la finale de la Somme Bay World Cup Nouvelle-Calédonie se tiendra au golf de la Wengi ce samedi 21 juin en formule Stableford. Alors ne manquez pas cette dernière opportunité et inscrivez-vous par mail à golf.wengi@lagoon.nc.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Les derniers équipages de la New Caledonia Groupama Race qui ont été bloqués ces dernières heures par la pétole, c'est-à-dire un manque absolu de vent, ont fini par rejoindre le port Brunet les uns après les autres depuis hier soir, Léo Fichou.
Oui, les arrivées se sont enchaînées dans une bonne ambiance. Pulpito MLS FCD a accosté à 21h, suivi de l'Australien Roamens. La nuit a continué avec BNC Mainet, puis vers minuit, Dove Sirius Solar Défi des Filles a franchi la ligne d'arrivée. Les membres des trois équipages Caledonia reviennent sur la course et la dure journée d'hier.
Tristan de Pulpito, on était bien content d'arriver, de voir les copains, boire une bière et puis ouais, c'était cool, bonne bagarre jusqu'à la fin. La régate était quand même vraiment très très belle avec des belles conditions.
Céline Kaltenmark de Défi des Filles. C'est très fatigant en fait parce qu'on fait la course à fond tout le temps et dans les 3-4 dernières heures, il y avait carrément pas de vent donc le bateau était arrêté à 0 nœud. Et là, c'est la guerre des nerfs parce qu'on voit Nouméa, on est juste tout proche mais on sait pas du tout combien de temps on va mettre pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée quoi.
Michel Quintin, co-skipper du team BNC Mainet. C'était super. Un petit peu frustrant à la fin parce qu'on est resté collé devant la passe de Vitoé pendant 9 heures sans pouvoir bouger, il n'y avait pas un brin d'air. Mais voilà, on s'est éclaté. Une belle course, belle édition avec des bateaux très groupés qui se tiraient la bourre. Il y a des super moments, après il y a des moments plus durs. Hein, mais voilà, au final, quand on met le pied à terre, on est super, super content.
Et ils étaient 23 au départ, il ne reste plus que Boudicea dans la course qui est encore au niveau de Kone. Le bateau néo-zélandais V5, Guilty Speed Marine, Epuro et Pulpito MLS FCD sont les trois premiers à avoir franchi la ligne d'arrivée. Le classement compensé sera dévoilé demain.
Restons dans les eaux calédoniennes avec la Citronnade qui revient ce soir pour sa deuxième édition. Ça se passe à la baie des Citrons. Cette course de natation nocturne organisée par l'association Dynamique NC propose plusieurs parcours dans une ambiance festive. Antoine Dalia est le président de l'association et nous détaille cette édition.
D'abord pour les petits, la citron pressée, donc 200 mètres de natation pour les 8-11 ans. Après, on va avoir 1 km, c'est la citron jaune. On va faire un grand triangle le plus grand possible dans la zone sécurisée par le filet anti-requin. Et puis après, derrière, on va faire un 450 mètres. En fait, on va partir du bord de la plage et puis on va faire le tour des radeaux. Et puis après, on a la Virgin Mojito. En fait, on va commencer par la citron jaune 1 km. Les meilleurs vont être qualifiés pour la citron vert et les meilleurs encore vont faire la même distance que les enfants, la citron pressée sur 200 mètres.
La première course débute à 18h ce soir. Chaque participant recevra un bonnet phosphorescent et une bille lumineuse à glisser dedans pour assurer sa sécurité. Un beau spectacle visuel pour ceux qui souhaitent observer le spectacle sans se mouiller. De la natation toujours, cette fois-ci en métropole, et carton plein pour Maxime Grousset. Le Calédonien a remporté un quatrième titre de champion de France la nuit dernière.
Après avoir remporté le 50 mètres papillon dimanche, où il avait battu le record de France, puis le 100 mètres nage libre mardi et le 50 mètres nage libre hier, Maxime Grousset a remporté cette nuit une quatrième médaille d'or en quatre courses. Donc, il s'est imposé sur le 100 mètres papillon. Écoutez, dans les conditions du direct, la fin de la course et la réaction du Calédonien.
Maxime Grousset qui s'impose, wow. 50 secondes,
record de France.
Nouveau record de France, meilleure performance mondiale de l'année pour le champion du monde.
Mais alors je sens que je l'ai vraiment bien fait et bien contrôlé, j'étais franchement relâché le premier 50, j'ai senti que je les ai mis dans le vent dès le premier 25, enfin, je me sentais bien sur 100 mètres et là, cette année le papillon, on va dire que je vole quoi.
De bon augure donc pour les mondiaux qui auront lieu à Singapour du 27 juillet au 3 août. Mondiaux auxquels participera un autre Calédonien, Ethan Dumesnil. Il sera aligné sur le relais. Le jeune nageur de l'Olympique Nouméa a réalisé de très belles performances lors de ses championnats de France. 4e sur le 100 mètres nage libre et 6e sur le 50 et le 100 mètres papillon.
Un mot de football avec la deuxième journée de Coupe du Monde des clubs aux États-Unis.
Après avoir battu l'Atlético de Madrid 4-0 lundi, le Paris Saint-Germain est opposé ce midi au vainqueur de la Copa Libertadores, Botafogo. Une équipe qui reste a priori à la portée des Parisiens puisque seul Joaquim Correa, ancien joueur de l'OM et de l'Inter, et Alex Telles, qui a notamment joué à Manchester United, évolue dans le club de Rio. Mais Luis Enrique, coach du Paris Saint-Germain, s'est montré très méfiant tout de même en conférence de presse.
On termine avec un mot de tennis pour signaler qu'il n'y a plus de Calédoniens engagés sur l'ITF Junior de Nouméa. Le dernier représentant du Caillou, Zach Genoudé, s'est incliné en quart de finale face à la tête de série numéro 3 du tournoi, le japonais Daisuke Hashimoto.